Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Billy Van Lutumba.
On en sait un peu plus sur l'attaque des villages de Tianzhou, Runyoni et Bikenge. D'après le porte-parole adjoint de l'armée, c'est effectivement les M23 qui ont attaqué ces villages. Dans ce journal, vous suivrez la confirmation du général Ekenge qui confirme également que l'armée est à la traque de ces éléments. Vous, dans ce journal. Nouvelle santé à suivre dans cette édition. 342 cas de rougeole dont 45 décès sont comptabilisés dans la zone sanitaire de Kunda, territoire de Kasongo dans le Maniema. Cette épidémie déclarée est accentuée malheureusement par la malaria et de la fièvre jaune. Le chef de bureau de la MONUSCO Sud Kivu et Maniema, Marc Carnassoro, est notre invité en fin de cette édition. Il nous parle de l'engagement de la mission onusienne dans son appui aux institutions provinciales du Sud Kivu en matière de sécurité. Merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne de prédilection en matière d'information Radio Kapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au Nord Kivu, les villages de Tianzhou, Runyoni et Bikenge sont occupés par des combattants que l'armée confirme, ceux du M23. Cette situation est provoquée par l'attaque de la nuit dernière par ces derniers. C'est dans le groupement Djomba, à 25 km au sud-est du chef-lieu du territoire des Rutshuru. Plusieurs habitants de ces agglomérations se sont déplacés vers la cité frontalière de Bunagana, à la paroisse de Djomba et en Ouganda voisin, affirment les sources dans la région. Jusqu'ici, aucun bilan officiel de ces affrontements n'est disponible. Mais la société civile des Rutshuru parle d'un militaire blessé au cours d'une communication à la presse ce mardi à Goma. Le porte-parole adjoint des FRDC, tout en confirmant que cette attaque a été menée par le M23, a ajouté que les combats se poursuivent et l'armée est déterminée à vaincre une bonne fois pour toutes la menace du M23. On écoute le général Sylvain Ekenge dans cet extrait que nous propose Peleki Pelamondo.
Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tianzhou et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les sols congolais. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ce groupe armé qui doit être neutralisé de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national.
Nous continuons à parler sécurité dans ce journal. Le chef d'état-major général de l'armée a reçu hier dimanche en audience des représentants de la société civile de la ville de Beni. Ces derniers lui ont présenté les principales attentes de la population, notamment liées au retour de la paix dans la région. Écoutez à ce propos Pascal Tembo Muliwavio, premier vice-président de la société civile de la ville de Beni, au micro de Guylaine Kassassia.
Nous avons montré au chef d'état-major général que l'insécurité n'a pas cessé dans la région de Beni. Nous avons dit que la population de Beni attend toujours impatiemment la réponse à cette gangrène de l'insécurité. Nous avons aussi demandé de procéder au relèvement des troupes qui ont duré longtemps ici à Beni. Nous n'avons pas oublié de dire au chef d'état-major général que jusque-là, nous constatons que l'état de siège dans lequel nous nous trouvons reste encore plus administratif que militaire, parce que sur le terrain, nous n'avons pas constaté l'implication directe, surtout dans le commandement des opérations. Nous avons aussi montré qu'il se pose un problème foncier à Beni, parce qu'il y a maintenant des espaces d'utilité publique qui sont menacés par des lotissements. Nous avons demandé que l'autorité puisse s'y impliquer de manière personnelle. Et il en a pris bonne note et a promis de s'investir personnellement pour régler les questions qui sont à son niveau.
Signalons que le chef d'état-major général des FARDC a quitté Beni hier pour la ville de Goma. Restons toujours dans la partie est du pays au sud Kivu. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et son collègue de la Défense séjournent à Bukavu depuis ce dimanche 7 novembre. Ils conduisent une délégation composée des députés nationaux et sénateurs du sud Kivu. L'objectif de cette mission est d'évaluer la situation sécuritaire de la ville de Bukavu et de la province du sud Kivu en général. Cela après la récente incursion d'un groupe armé à Bukavu. Ce lundi 8 novembre, cette délégation s'est entretenue avec le gouverneur de province, le bureau du président de l'Assemblée provinciale et quelques autorités politico-administratives. Suivra un conseil de sécurité avec tous les membres des services de sécurité et des renseignements de la province. Sauf imprévu et selon le programme établi, ces délégations vont séjourner dans la province pendant une semaine. En Ituri à présent, une délégation envoyée par le chef d'état-major général des FARDC a rencontré samedi dernier des leaders du groupe armé Codeco à Linga dans le territoire des Djougou. Selon des sources concordantes, l'objectif de cette démarche est de persuader ses assaillants à mettre fin aux hostilités pour la recherche de la paix. Certains leaders religieux encouragent le gouvernement dans toute initiative susceptible de ramener la paix en Ituri. En revanche, pour la coordination de la société civile Force Vive, l'armée doit plutôt intensifier ses opérations contre les groupes armés. Martial Kizabiamungu.
Cette délégation de 4 personnes venues de Bounia était conduite par une femme et comprenait un major et un capitaine de FARDC ainsi qu'un notable du territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires, ces émissaires étaient porteurs des messages du chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala Moussessé, au leader du groupe armé Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais IRDPC Bar Codeco, représenté par le général autoproclamé Charité Ngonakiza alias Cobra. Ce message, selon nos informations, c'est celui de la cessation des hostilités et l'adhésion de ces groupes armés au processus de paix. Une démarche saluée par des leaders religieux. Pour le pasteur James Biensé, ces groupes armés doivent profiter de cette nouvelle main tendue du gouvernement pour la pacification de l'Ituri.
Nous croyons fermement que les armes toutes seules ne suffisent pas pour donner la paix.
De son côté, la coordination de la société civile de l'Ituri désapprouve la démarche qui, selon elle, est inopportune à cette période de l'état des sièges, dit Doné Loussa.
Ça dénote, n'est-ce pas, de les capacités de l'armée de faire face à Codeco.
L'armée, quant à elle, s'est réservée de tout commentaire. Bounia, Martial, Kiza, Biamongo, Radio Okapi.
Dans la même province, 3 personnes ont été tuées et plusieurs maisons incendiées lors d'une attaque dimanche d'un groupe des présumés rebelles des ADF à Luna, proche des Rengeti, dans la province voisine du Nord Kivu. La société civile locale indique que l'armée est intervenue en mettant en déroute ses hommes armés. Cependant, cette structure citoyenne déplore le déplacement des populations et la paralysie des activités à la barrière de Luna qui abrite plusieurs services de l'État. Le trafic est également suspendu sur la RN4, le point avec Ezekiel Mouzalia.
Selon la société civile locale, c'est la deuxième attaque après celle de vendredi par ces rebelles des ADF à Luna Kabrik, à la limite avec le Nord Kivu. Ces derniers ont tué 8 civils, dont 5 sont morts calcinés dans des véhicules incendiés. Hier dimanche, ils ont fait incursion à la grande barrière de Luna où sont installés plusieurs services de l'État. 2 civils sont morts pendant l'attaque et un militaire a été blessé puis acheminé à une structure médicale à Eringeti où il a rendu l'âme. Ces rebelles ont également mis les feux sur des maisons dans cette localité, explique la société civile locale. D'autres sources avancent un bilan de 4 morts. L'armée est aussitôt intervenue pour traquer ces hommes armés. De nombreux habitants de Luna ont fui dans la province voisine du Nord Kivu et tous les bureaux des services de l'État sont fermés. Le trafic est aussi suspendu sur les tronçons commandes à Luna en attendant les opérations militaires qui sont en cours. De son côté, l'armée n'a pas encore donné sa version sur cette dernière attaque des ADF. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Un mot de santé comme annoncé dans le sommaire de cette édition. Une épidémie de rougeole signalée dans la zone de santé de Kunda, territoire de Kasongo, au Maniema. On signale 45 décès et sur plutôt 342 cas enregistrés en 3 semaines. À cette maladie s'ajoutent 3 autres, le paludisme grave, la fièvre jaune et la poliomyélite. La résurgence de ces maladies intervient dans un contexte de grève du personnel non-soignant des hôpitaux publics. Information confirmée par l'administrateur du territoire de Kasongo, Kingombe Kitenge-Beno, en séjour à Kindu. Florence Kizalunga.
Selon cette autorité territoriale, à part ces cas de rougeole, il y a 14 cas de paralysie flaque aiguë, c'est-à-dire la poliomyélite, des cas de fièvre jaune et des centaines de décès dus au paludisme sévère et rebelle avec anémie dans cette zone de santé de Kunda.
En l'espace de 3 semaines, on vient d'enregistrer plus de 45 morts et plus de 345 cas de la maladie de la rougeole. On enregistre des morts le jour au jour et l'agglomération la plus pointille est Bikenge, il y a aussi Karomo, il y a aussi Kipaka. La rougeole vient de s'effectuer pendant la période à laquelle les infirmiers sont en train de gréver. Plus de cela, il n'y a pas tellement de produits pour le moment et surtout que PDSS, qui est le partenaire le plus privilégié de la zone de santé de Kunda, est en passe de fermer ses activités d'ici le mois de décembre.
Il sollicite l'implication des autorités provinciales et nationales ainsi que des humanitaires pour tenter de freiner la propagation de ces maladies.
Les partenaires se leur demandent de nous accompagner. Ou adresser nos plaidoyers au niveau du gouvernement central qui peut aussi d'une manière ou d'une autre nous venir en aide.
Le gouvernement provincial dit avoir dépêché une équipe sur terrain pour mener des investigations. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Nous parlons enseignement dans les institutions publiques en rapport avec la reprise des cours. Au lendemain d'une assemblée générale des deux principaux syndicats des enseignants de Beni Tenu hier, les cours ont repris ce matin dans la plupart des écoles publiques de la ville. Dans la majorité d'établissements scolaires visités par les reporters de Radio Okapi, les enseignants et les élèves étaient bien présents, ce qui n'était pas le cas depuis la rentrée scolaire. Suivez ce reportage de Guylaine Kassassia.
Une ronde effectuée dans plusieurs écoles primaires indique que les portes sont désormais ouvertes. À l'EPIA Kileo et Mbene, deux écoles conventionnées catholiques, les responsables confirment la reprise des cours, mais annoncent une mise en place pour permettre aux élèves de suivre effectivement les cours dès mardi. Du côté de l'EPIA Beni, les cours ont effectivement commencé déjà ce matin, comme le confirme Ayoma Kotela Lomande, responsable de cette école.
Ce matin, tous les enseignants sont là. La majorité des colliers est déjà là aussi. On suppose que ça va aller à partir d'aujourd'hui.
Depuis la rentrée scolaire, certaines écoles secondaires publiques avaient déjà repris les activités scolaires. C'est du côté du primaire que la grève était la plus manifeste. Ce n'est désormais plus le cas. Ce dimanche, au cours de l'assemblée évaluative de leur grève, les deux principaux syndicats des enseignants, les CIECO et les CINECAT, avaient résolu de suspendre le mouvement des grèves et reprendre les cours ce lundi en attendant l'aboutissement des négociations avec le gouvernement. Christophe Kanyambwe, secrétaire permanent du CIECO à Beni.
Lorsqu'il y a pour parler avec les délégués syndicaux, en tout cas, selon notre loi, il faut suspendre la grève. C'est l'option que nous prenons, mais la grève n'est pas levée. Tout en attendant, ce qui va se solder par les pourparlers de nos délégués syndicaux. Donc, si cela venait à notre défaveur, nous allons entrer à grève sèche.
Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Parlons de manière générale de cette reprise des cours à travers le pays. C'est depuis le 28 octobre 2021 que le gouvernement et le banc syndical des enseignants discutent en Mbuela Lodge pour décanter la situation de la grève décrétée par les enseignants depuis le début de l'année scolaire. 10 jours après, peu d'informations nous parviennent de ces consultations et l'impatience ne fait que grandir du côté des parents ainsi que des élèves. Les détails avec J.R. Lungembo.
10 jours après, Jean Bosco Pouna, porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants, estime que c'est du chaos et même du raté, car les propositions des délégués et des enseignants n'ont pas eu un écho favorable auprès du gouvernement. Pour lui, entre autres, ce qui fâche, c'est cette circulaire du ministère de l'EPST qui autorise la reprise de la prise en charge des enseignants par les parents pour les classes de 7e et 8e. De son côté, Miliès Ndelo, rapporteur de la Force syndicale nationale, une des plateformes qui participe à la commission paritaire en Mbuela Lodge, affirme que les discussions se poursuivent en bonne et due forme dans les 4 sous-commissions qui traitent les principaux points inscrits dans le protocole d'accord de septembre 2019 à Bibwa. Entre-temps, tous les appels à la reprise des cours n'ont pas abouti. Et ce lundi, la synergie des syndicats convoque l'Assemblée générale pour fixer l'opinion et lever d'autres options.
Actualité internationale.
La situation se tend chaque jour un peu plus en Éthiopie. Le groupe armé Oromo annonce une attaque prochaine sur la capitale. Le gouvernement appelle les habitants d'Addis Abeba à s'organiser pour défendre la ville. Selon un chef du groupe armé Oromo Ola, qui combat le gouvernement éthiopien aux côtés des rebelles tigréens, ces combattants se trouveraient près de la capitale et prépareraient une nouvelle attaque promettant la fin prochaine du conflit. La haute commission électorale libyenne a annoncé l'ouverture à compter de lundi du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de décembre suivie des celles des législatives de janvier censées sortir la Libye d'une décennie de chaos. Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle sera ouvert du 8 au 22 novembre et celui des élections parlementaires du 8 au 17 décembre. Pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits sur la plateforme en ligne de la centrale électorale. La distribution des cartes d'électeurs se fera dans les bureaux de vote jusqu'à fin novembre.
L'invité.
Marc Karnassoro, chef des bureaux de la MONUSCO Sud-Kivu et Maniema, est notre invité ce soir. Avec Emmanuel Elameji, il parle des engagements de la MONUSCO par rapport à l'appui au gouvernement congolais et aux forces de sécurité pour la restauration de la paix. Suivez.
Monsieur le chef de bureau Karnassoro, bonjour.
Bonjour.
La situation sécuritaire se dégrade davantage dans la province du Sud Kivu. La ville de Bukavu elle-même venait d'être attaquée il n'y a pas longtemps par un groupe armé. Première réaction?
Bon, dans un premier temps, je voudrais quand même, au nom de la représentante spéciale, saluer la réaction des autorités qui ont fait preuve de beaucoup de sens de responsabilité et de retenue. La MONUSCO s'est tenue à leur côté pour répondre à cette situation, mais vous ne vous doutez pas que si les autorités n'avaient pas fait preuve de retenue, on risquait d'assister à beaucoup de bavures et d'exactions compte tenu du fait qu'il y avait une confusion entre ces assaillants et les populations dans les quartiers où ils passaient. On ne pouvait pas les distinguer facilement. Donc je voudrais quand même saluer le sens de responsabilité et de retenue des autorités qui ont réussi à repousser les assaillants tout en limitant autant que faire se peut l'impact sur les populations civiles.
Alors, du côté de la MONUSCO, il y a un appui supplémentaire aux autorités dont vous parlez ou il y a un renforcement des dispositifs?
Oui, naturellement, à la demande des autorités, le dispositif est renforcé. Notre dispositif est aussi à leur disposition. Ils peuvent le solliciter à tout moment. Mais il y a aussi en parallèle un certain nombre d'actions qui sont articulées conjointement entre la PNC, la MONUSCO, la FRDC et la MONUSCO, en appui aux autorités. Et encore une fois, nous restons à la disposition des autorités pour les appuyer.
À part la ville de Bukavu, il y a toujours cette situation sécuritaire hein, dans les hauts et moyens plateaux, Fizi, Uvira et Mwenga. D'un côté, les groupes armés qui s'appellent Mai Mai. De l'autre côté, les groupes qui attaquent les FRDC ou le pays. Quel est le rôle que joue la MONUSCO? De quel côté se trouve la MONUSCO?
La réponse à la question est très simple. Nous sommes dans l'État souverain de la République démocratique du Congo et donc la MONUSCO a été déployée à la demande du Conseil de sécurité pour appuyer les autorités congolaises à ramener la paix dans le pays. Et donc nous appuyons les autorités gouvernementales. Je profite de l'occasion pour rappeler à tout un chacun que la constitution congolaise octroie le droit seulement à l'autorité compétente et aux forces compétentes de porter des armes. Cela est très clair dans la loi congolaise. Et donc nous, nous tenons aux côtés du gouvernement congolais et nous sommes prêts à les appuyer pour stabiliser le pays. Madame la représentante spéciale l'a encore rappelé lors de sa dernière présentation au Conseil de sécurité. Et nous sommes aux côtés du gouvernement pour stabiliser le pays.
Pendant que vous appuyez le gouvernement, il y a certains des groupes, les uns ou les autres, qui tentent toujours d'accuser la MONUSCO. Il y a des informations qui circulent, qui accusent la MONUSCO d'appui à tel ou à tel autre parti.
Naturellement, il y a beaucoup de mauvaise foi. Nous travaillons avec le gouvernement provincial, nous travaillons avec les FRDC. Nous avons des opérations conjointes, naturellement dans le respect des procédures en vigueur. C'est très important de le préciser. Donc, nous entendons aussi beaucoup de ces accusations, assez farfelues d'ailleurs, très farfelues, depuis le temps que ça dure. Je crois que maintenant, les uns et les autres devraient se ressaisir, déposer les armes, rejoindre le nouveau programme DDR qui a été proposé par le gouvernement et permettre à ce pays-là de pouvoir se développer, permettre à cette province de pouvoir se développer. En tout état de cause, en ce qui nous concerne, nous avons été instruits par la représentante spéciale de donner tout l'appui nécessaire aux autorités autorités dans le respect des procédures en vigueur entre la MONUSCO et le gouvernement congolais.
Chaque fois, vous lancez toujours des messages à tous ceux qui ne sont pas habilités à porter les armes, de les déposer. Mais la situation se dégrade toujours davantage. Est-ce que vous comptez changer de stratégie? Comment voyez-vous l'avenir?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous appuyons les autorités. Et je crois que les autorités, de leur côté, sont en train de prendre une posture plus ferme à l'endroit de ces groupes. Et nous allons rester aux côtés du gouvernement, donc dans cette posture de raffermissement de la manière de traiter toutes ces personnes qui ont des armes et qui n'ont pas le droit de les porter et donc qui abusent des populations civiles. Les populations doivent pouvoir vivre, doivent pouvoir vaquer à leurs occupations. Il faut donc que les gens se ressaisissent. L'économie, rien ne pourra fonctionner si la paix ne revient pas.
Monsieur le chef de bureau Karnasoro, merci.
Merci à vous.